seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going and everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Donc l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un glove trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le 20e numéro d'Il regarde le monde tourner. 20 numéros, bon anniversaire et surtout un même objectif, décentrer votre regard loin des sentiers rebattus de l'information ou creuser ces nouvelles qu'on vous expose sans vous les expliquer. Bref, relief, recul et surtout légèreté pour un voyage qui se conclut toujours, vous le savez, par une note insolite et se déroule en musique. Alors que le monde déclare la guerre à l'État islamique génocidaire, alors que l'Ukraine n'en finit plus de saigner, alors qu'au Soudan du Sud, déchiré par la guerre civile, les Nations Unies dénoncent un niveau de viol et de violence sexuelle jamais atteint, et si on parlait un peu de la paix ? Et si on agitait le drapeau blanc, White Flag, comme le chante Dido ? On célèbre la paix donc, et plus particulièrement son 95e prix Nobel, dont les récipiendaires ont été dévoilés vendredi 10 octobre dernier. Il s'agit de la jeune pakistanaise Malala Yousafzai et de l'indien sexagénaire Kailash Satyarthi. Et cette année, du côté d'Oslo, c'était l'année de tous les records. D'abord du côté des candidats, puisque pas moins de 278 individus ou organisations étaient en lice cette année. Donc oui, on peut le dire, un record. Mais record également du côté des lauréats et de Malala Yousafzai, qui a seulement 17 ans. Eh bien oui, et donc elle devient la plus jeune impétrante de ce prix décerné depuis 1901. Autre événement, et pas des moindres, il s'agit de la première distinction pour un citoyen, une citoyenne en l'occurrence, du Pakistan. Puggy et To Win the World à l'instant sur Transistor, et eux, Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi, they win the World Prize. Et vous allez me dire, bon, c'est facile à expliquer, pas besoin d'un numéro d'Il regarde le monde tourner. Tous les médias le répètent, c'est en fait le droit des enfants que le comité norvégien a voulu mettre à l'honneur. Erreur ! C'est bien plus complexe que ça. Et il y a au moins trois autres causes aussi importantes, peut-être même plus, à prendre en compte pour comprendre le choix du comité Nobel, à savoir la lutte idéologique contre les talibans, le regret du comité de n'avoir pas récompensé Gandhi, et enfin l'actualité de la géopolitique du sous-continent indien. Et on commence avec ce dernier argument, et encore une fois, pas besoin d'avoir inventé la poudre pour se rendre compte que le comité Nobel a décidé d'associer un Indien et une Pakistanaise, c'est-à-dire des ressortissants de deux pays qui, depuis la partition des Indes, entrée en vigueur le 15 août 1947, qui a entraîné des millions de personnes déplacées et des dizaines de milliers de morts, et bien que depuis cette partition, les deux pays sont les meilleurs ennemis.
Just a tragedy. We own all.
Enemy. C'est ce que chante le groupe Skip the Use. Et oui, c'est tendu entre Inde et Pakistan. Ça ne date pas d'hier, remarquez, hein, trois guerres indo-pakistanaises, une guerre des glaciers, la menace nucléaire toujours au-dessus de leur tête puisque ces deux voisins possèdent cette arme de dissuasion ou d'extermination, c'est selon. Néanmoins, ce qui date presque d'hier, du lundi 6 octobre dernier exactement, c'est la soudaine recrudescence de la violence au Cachemire, pomme de discorde hein, presque éternelle entre Inde et Pakistan, alors même qu'un processus de paix était en cours dans la région depuis 2004. Selon un haut responsable indien de la sécurité aux frontières, en effet, l'armée pakistanaise aurait tiré à la mitrailleuse et au mortier sur une soixantaine de postes de l'armée indienne lundi 6 octobre, s'exposant à des tirs de représailles. Ça a fait des dizaines de blessés et, surtout, une crainte est apparue, celle d'un engrenage meurtrier. Alors oui, dans un tel contexte, la nomination conjointe d'une Pakistanaise et d'un Indien a tout d'une exhortation géopolitique, celle de rappeler qu'Inde et Pakistan peuvent aussi être unis par la paix et plus longtemps qu'un déjeuner en compagnie de Stéphane Escher.
Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix.
Mais officiellement, je vous l'accorde, hein, c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs à la machine à café. Ouais, t'as vu, c'est le droit des enfants qui a été mis à l'honneur par le dernier prix Nobel de la paix. Tout juste, Auguste, et il est temps de rendre hommage aux deux lauréats, à Malala Yousafzai, blogueuse pakistanaise et défenseuse du droit à l'éducation des filles, qui avait été la cible d'une tentative d'assassinat des talibans en 2012. Et puis aussi hommage à Kailash Satyarthi, dont l'association, le Bashpan Bashao Andolan, traduire le mouvement pour la sauvegarde de l'enfance, eh bien, a sauvé plus de 80 000 jeunes forcés à travailler. Droit des enfants donc, et surtout droit à l'éducation de ces enfants. D'ailleurs, selon les chiffres de l'UNESCO, c'était une nécessité puisque le nombre d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde avoisinerait les 57 millions. C'est quand même assez impressionnant comme chiffre. Il était temps donc de rendre hommage publiquement à ceux qui protègent les enfants, leur permettent d'avoir accès à l'école. Et ce n'est pas Robert Miles et son Children qui va dire le contraire. Quand les enfants ne sont pas à l'école, eh bien oui, ils sont obligés de travailler. Et c'est notamment contre cette situation que se bat en Inde Kailash Satyarthi et son mouvement pour la sauvegarde de l'enfance. Il faut dire que le combat en Inde, plus qu'ailleurs, peut-être, il est nécessaire. À la faveur d'une étude faite sur le terrain par le Center for Health and Human Rights de l'université d'Harvard, pas moins de 3200 ateliers et usines de production de tapis exploitant des enfants, parfois de 5 à 6 ans, ont été répertoriés dans 9 états de l'Inde. Leur salaire, $1,58 pour 8 heures de travail. Sauf que ça, c'est le chiffre officiel, on va dire. Il doit être nuancé, car très souvent, les enfants sont vendus par leur famille. Et donc, du coup, ils ont des charges en plus, comme leur nourriture, leur lit, leurs médicaments. Sans oublier des pénalités qui leur sont imposées pour des erreurs de fabrication qu'ils peuvent faire. Autant dire que quand on a déduit tout ça, bien il ne reste rien, absolument rien, des $1,58. Et le bénéfice, il va à qui ? Eh bien à des compagnies comme Crate & Barrel, Target, Macy's et encore et toujours Ikea.
Avant la date interdite, mon Dieu, je n'arrêtais pas des étagères, des huches à pain, des lits à baldaquins, des cuisines intégrées. J'ai tout monté toute seule avec leur putain de notice à la con, ces enculés de Suédois, là. Pas des notices, c'est des sudokus. Bon, le Suédois le fait exprès, hein. Des dessins, des flèches, des vis, des boulons, des vipans, des cipans, des clés à laine, des clés à étoiles introuvables. Le Suédois fait chier le latin. C'est bien connu. C'est un peuple qui se les gèle. Alors ils sont méchants, ils se vengent. Olaf Peterson et Olga Gustafsson. Ce sont quand même deux grands malades, non? Ça fait combien d'années qu'ils nous pètent les week-ends? Combien de divorces après un montage de Mablica qui a mal tourné un samedi après-midi? Des voisins la semaine dernière, 18 heures pour un lit, ils étaient 6.
Alors Kailash Satyarthi raconte que le déclic chez lui, il a eu lieu dès l'âge de 6 ans. Non pas en écoutant ce sketch de Chantal Latsou sur Ikea, bien sûr, mais lorsqu'il a vu un garçon de son âge sur les marches de son école en train de brosser des chaussures avec son père. Cette image, il l'a gardée, devenu avocat des droits des enfants, et il a commencé son combat en organisant des raids contre des usines et des ateliers afin de libérer des familles entières contraintes de travailler pour rembourser un prêt qu'elles avaient contracté, par exemple. Aujourd'hui, il préside également la Marche mondiale contre le travail des enfants, un mouvement créé dans les années 1990. Et quand on parle comme ça de non-violence, de marche, de respect des droits, forcément, l'héritage de Gandhi, il est patent. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui est célébré dans ce 95e prix Nobel de la paix. Gandhi, qui avait été nommé 5 fois pour ce prix Nobel, mais qui ne l'a jamais obtenu, ce qui valut d'ailleurs un regret public du comité des années après la mort du leader indien. On se rappellera également que lors de la remise du Nobel de la paix au Dalai Lama en 1989, le président du comité avait précisé que le prix était remis en partie à la mémoire du Mahatma Gandhi. The Rasmus et In the Shadows à l'instant sur Transistor, et à côté de l'ombre de Gandhi hein, qui plane, c'est évident, derrière le choix de Kailash Satyarthi. Autre cause qui a motivé le choix, cette fois-ci, de Malala Yousafzai, c'est la lutte idéologique contre les talibans. Lutte idéologique, ok, mais aussi une lutte bien réelle et concrète, hein, puisque son combat à Malala, il a bien failli lui coûter la vie en octobre 2012 lors d'un attentat contre sa personne. Ben oui, parce qu'il faut expliquer que Pashtun, ou Patan, hein, comme on dit au Pakistan, Malala, elle vient de la vallée du Swat. Autant dire, hein, si vous connaissez un petit peu le Pakistan, d'une zone qui échappe totalement au gouvernement pakistanais, qui mène d'ailleurs hein, régulièrement des actions militaires, on appelle ça les guerres du Swat, contre les talibans, qui règnent en maître dans une région où ils ont par exemple décrété en 2009 l'interdiction des écoles aux filles. Et les talibans, ils sont majoritairement Pashtun. Et là, on comprend tout. Malala, finalement, c'est une patane qui revendique le progrès, l'émancipation, le droit des femmes et des enfants. Pour les talibans, en un mot, c'est une traîtresse. Une femme qui leur rappelle et rappelle au monde entier que tous les patanes, tous les pashtuns ne sont pas des talibans.
Dingue !
Oui, dingue, on finit comme d'habitude par un peu de légèreté et beaucoup d'insolite. Pour cela, on reste en Inde pour une opération des plus étranges. Au départ, un jeune Indien se rend à l'hôpital, bon, parce qu'il se plaint de démangeaisons dans l'oreille. C'est alors que le corps médical découvre qu'il ne s'agit pas d'une otite, mais que la cause de cette gêne est un criquet vivant de 7 cm qui obstrue le conduit. Il a fallu plusieurs minutes pour extraire l'insecte vivant de l'oreille du patient. Et, chers auditeurs, comme l'intervention assez unique a été filmée, vous pouvez voir la vidéo. Je vous ai mis le lien sur la page de l'émission. Je vous préviens, ce n'est pas très ragoûtant. Lana Del Rey pour finir cette émission, sans rapport aucun avec ce qui précédait, rassurez-vous. Mais les cinéphiles ou les fans de Xavier Dolan auront compris le clin d'œil, puisque j'ai ouvert cette émission, rappelez-vous, sur White Flag de Dido. Et je la termine avec Born to Die, exactement comme le fait le réalisateur québécois dans son dernier long métrage primé à Cannes, Mommy, que je vous encourage vivement à aller voir, parce que personnellement, c'est la plus forte des claques que j'ai prises de ma vie. Un film fort, un film qui vous prend aux tripes, en jouant sur toutes les émotions, du rire aux larmes en passant par l'angoisse et l'espérance, bref, un film vivant. Bon, alors avant de foncer dans le cinéma le plus proche, laissez-moi quand même le temps de vous remercier de votre fidélité, de remercier également Clément à la régie et de vous donner rendez-vous bientôt pour un nouveau globe-trottage à contre-courant des médias traditionnels. Et d'ici là, faites comme moi, surtout n'oubliez pas de regarder le monde tourner. Mmh.